avait une devise, c'était unique comme à bord. Je dirais, nous, quand on naviguait entre nous, on montait un petit peu ce que j'appelle, je compare ça à un mur de briques. Si on enlève une brique, il y a tout qui tombe.
On parle de cohésion dans les sous-marins et c'est pas de la mythologie. On est face à des hommes où chacun met sa vie dans les mains du petit camarade.
Bah, c'est un métier à part dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de sous-mariniers. Et les gens passant d'un bateau à l'autre, ça fait une grande famille, quoi. Et surtout, l'autre chose qui est importante, c'est que chacun dépend de chacun.
On était une équipe tellement soudée, c'était comme une famille, que bon, ça se passait bien, quoi.
Bah, la camaraderie, le lien entre tous les copains et tout, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Donc on a toujours des phases où ça se passe très bien et des phases où on est un peu moins bien. Et c'est là où justement l'esprit d'équipage est très important.
Voilà, c'est ça l'exemple type de la camaraderie, c'est de sentir que le copain est dans un coup de blues, d'aller l'aider pour le réconforter.
J'aurais bien aimé faire une patrouille sur le redoutable pour une simple et bonne raison, c'est que quand j'entends les anciens en parler, cet esprit d'équipage de cohésion allait encore plus loin que nous. Ils avaient moins de technologie que nous et donc moins de moyens de s'isoler. Tout ce qui était activité se faisait toujours en collectivité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient pour eux.
C'est quelque chose que, quand j'ai quitté la Marine nationale, m'a manqué énormément parce que dans le civil, on ne trouve pas ça.
Si c'était à refaire, je ferais exactement la même vie, hein. La même profession. J'en rêve la nuit, même 25 ans après. Hein.
Alors à cette époque-là, embarquer sur un sous-marin représentait une avancée technologique très supérieure à ce qu'on pouvait rencontrer sur les bateaux de surface. Maintenant, sur le point de vue pratique, je savais que j'avais le mal de mer. Donc en embarquant sur un sous-marin, je pensais bien que ça aurait beaucoup amélioré la situation.
Alors moi, c'est assez simple. J'ai découvert l'atome au collège, en cours de physique. Et je voulais faire du nucléaire dès l'âge de 14 ans. Et à 15 ans, j'ai lu Tom Clancy, Octobre Rouge, et Fessenheim, parce que j'habitais pas très loin. D'EDF, là, c'est brutalement devenu moins intéressante, et je savais que je voulais devenir sous-marinier.
Il y avait une aura sur les sous-mariniers qui était due à la fois au danger. On sortait des accidents de la Minerve et de l'Eurydice, hein, donc un métier dangereux, et puis on associait ça à une élite.
J'ai visité le sous-marin Doris qui était en hyper à Cherbourg, c'était en 78. Et là, quand j'ai vu les conditions de vie à bord, la sympathie des gens, l'esprit d'équipe qu'il y avait, j'ai dit « oh, ça c'est pour moi ».
Tout ce mystère qui se fait autour suscite forcément la curiosité. Et après, on apprend très vite que c'est un milieu assez fermé avec des personnes très intéressantes.
Le poste le plus court, c'était les sous-mariniers, et personne ne voulait y aller. Alors, je suis allé. Bon, c'est surtout plus intéressant financièrement après. Vous savez, quand vous avez gratté les fonds de culotte dans votre jeunesse, c'est normal.
Alors, ce qui est motivé pour venir se marier, ben, c'est un petit peu comme tout le monde, suivre les copains qui voulaient également venir se marier.
Parce que c'est la petite famille dans la marine, plus l'aspect du bateau qui est assez, c'est assez secret. Pour s'en savoir plus là-dedans, il faut y adhérer.
J'étais curieux de savoir comment on pouvait vivre sous l'eau, à bord, enfermé dans une simple petite coquille. Et très vite, j'ai pris le goût de la camaraderie et de la fraternité qu'il y a à bord. Et ça, j'ai jamais pu m'en séparer ni l'oublier. Alors nous, à bord, on avait du temps libre, oui. Parce que hormis faire le quart, ou alors l'une de nos installations tombe en panne, où là, il fallait intervenir et faire vraiment une maintenance curative. Mais sinon, du temps libre, on en avait.
Les loisirs, ben, c'était essentiellement du loisir collectif.
On se retrouvait tous à la cafétéria, 50, 60 là-dedans. C'était de suite une forme de petite fête, quoi. Hein, pour donner le sourire à tout le monde.
Il y avait donc des distractions avec des jeux de société comme les jeux de cartes, belote, tarot, etc. Ou échecs et dames. Donc bien souvent, le soir, ceux qui aimaient bien faire un tarot, ben on allait taper le carton sur la table d'opération. C'était un petit peu traditionnel.
Et puis alors, la lecture. Beaucoup, énormément de lecture.
Chacun avait un petit hobby, chacun emmenait, il y en a, c'était des maquettes, des choses comme ça. Moi, je me souviens, ma première patrouille, je faisais un filet de pêche.
Il m'est arrivé également de faire du canevas.
Ben, je me suis lancé une fois pour faire un tapis, mais alors c'était catastrophique, il a été jeté autour de patrouille.
On faisait souvent une séance de cinéma à la cafétéria qui regroupait tout le monde, officiers, mariniers, équipage.
Sinon, on organisait également des soirées à bord, des soirées déguisement, soirées avec orchestre et sketch. En général, ça se passait à la cabane, c'est-à-dire quand on estimait être à mi-patrouille.
Il y avait un comité de distraction qu'on appelait ça, et puis ils étaient quelques personnes, et puis ils s'occupaient de mettre en place tout un tas de récréations, alors, entre autres des concours de cartes.
On embarquait, avant de partir en mer, des instruments de torture, genre vélo d'appartement, rameur. Il y avait des sacs pour taper dedans, faire de la boxe. On avait beaucoup qui se défoulaient.
La trancheuse, la tranche missile, on appelait ça la forêt de baobab. Et là, on tournait autour des baobabs, donc des 16 missiles. On faisait plusieurs tours, quoi.
On pouvait faire, par exemple, 1 km, 2 km, 3 km.
Et les jours défilaient comme ça, rayés les uns après les autres, jusqu'à arriver à la fin de la patrouille.
C'est le 29 mars 1967, dans l'arsenal de Cherbourg, que le redoutable premier sous-marin atomique français allait être lancé par le président de la République française. Le redoutable, doté d'un moteur atomique lui permettant de faire 5 fois le tour de la Terre, est le plus gros sous-marin jamais sorti d'un arsenal européen.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un sous-marin nucléaire, c'est un objet technologique incroyable. C'est l'objet le plus compliqué qui est fabriqué par l'homme. C'est même plus compliqué qu'une station spatiale. Donc, il y a énormément de technologies, de matériels différents, ne serait-ce que pour vivre à bord ou pour tirer un missile nucléaire, c'est très très compliqué. Tout ça, au moment où le général de Gaulle a décidé de créer la force océanique stratégique et de fabriquer le sous-marin redoutable, ça n'existait pas en France.
C'était quand même une aventure extraordinaire, ce redoutable. Vous savez, les Américains pensaient qu'on n'y arriverait jamais. De faire rentrer un réacteur dans un sous-marin, de faire rentrer des missiles dans un sous-marin, de faire des armes nucléaires petites et de lancer tout ça, ben, ça a été fait.
Alors la vie des sous-mariniers, ça a été la révolution, puisque d'un seul coup, on avait accès à une énergie quasi inépuisable, donc on pouvait faire autant d'eau qu'on voulait.
Alors quand on arrive d'un sous-marin classique, ou quand vous embarquez, on vous dit, écoute, là, tu n'as que 4 litres d'eau par jour, tu en fais ce que tu veux. Quand on arrive sur un sous-marin nucléaire, où là on te dit tu peux prendre une douche, voire 2 douches par jour, c'est énorme.
Et puis, pour mettre ces missiles et ces fusées qui ont une taille quand même assez importante, la coque était plus grosse et donc on avait subitement de la place pour avoir chacun sa bannette. Et donc ça a eu des retombées sur notre vie de tous les jours, puisqu'il a fallu des ordinateurs à bord, ça n'existait pas au début des années 70. La France a développé une industrie informatique. Il y a eu les fusées pour lancer les missiles, hein, donc, ce qui a débouché derrière sur le programme Ariane. Et c'est une aventure qu'on aurait aimé vivre, parce que partir d'un tout petit sous-marin avec un moteur diesel et arriver à un énorme sous-marin avec des missiles et une chaufferie nucléaire, c'est une aventure extraordinaire.
Alors, c'est vrai que la nourriture, c'était très important. Déjà, on mangeait très très bien. Là, il faut dire que c'était fantastique, à tel point que aux alentours de la mi-patrouille, le médecin, il nous faisait tous passer sur la balance.
Ah oui, j'en garde un très bon souvenir. On mangeait très bien dans les sous-marins, c'est vraiment, je pense, c'était le summum dans la marine française, hein. Voire dans les armées même. On mangeait très bien. Les repas, ça tournait sous forme de quatorzaine, donc tous les 14 jours, le même repas revenait.
Puis en plus, il y avait le dimanche midi où c'était encore améliorer, quoi.
Ça rythme également la vie à bord, parce qu'on savait que tous les dimanches, on avait ces repas-là. Et ça, c'était très important, ça donnait un rythme de vie. On sentait que la semaine était passée, on attaquait une autre semaine.
Et puis c'est fait, mais les cuisiniers, quand on voit les conditions de travail dans lesquelles ils travaillaient, avec une cuisine de 3 mètres carrés, et puis faire à manger pour 135 personnes, je retire mon chapeau, quoi.
Et la nuit, c'est le pâtissier qui prenait la place. Et donc, quand on finissait le quart, ou à minuit, ou à 4 heures du matin, déjà, ça sentait bon les croissants, ça sentait le pain, et on se remettait à casser la croûte, quoi.
La cafétéria, on appelle ça la place du village. C'est ce qui fait tenir le moral de l'équipage.
Le rôle du cuisinier, il est très important à bord, hein. Un mauvais cuisinier, ou des mauvais cuisiniers pendant une patrouille, un mauvais boulanger, je ne sais pas dans quel état va rentrer le bateau, hein.
Si vous voulez, dans un sous-marin, à la limite, le type que vous n'aimez pas, il peut vous sauver la vie demain. Donc, clairement, moi, je n'ai jamais eu à vivre de conflit. Plus à la fin de la patrouille arrivait, plus on sentait que les gens étaient un petit peu sensibles. Et j'ai tendance à dire que plus on faisait attention.
Bon, psychologiquement parlant, on était quand même, je pense, trié sur le volet. Et on avait un esprit relativement calme et qui ne perdait pas ses moyens pour un oui, pour un non, quoi. On passait devant un psychologue, devant des médecins, et puis pour savoir si on était apte à supporter ça, quoi, un confinement de 70 jours coupé du monde, quoi.
Si jamais on ne s'entendait pas avec quelqu'un particulièrement, on cherche à éviter cette personne-là. On ne va pas aller à un conflit qui pourrait dégénérer. Mais personnellement, je ne l'ai jamais vécu, ça.
Quand quelqu'un ne me revenait pas, j'essayais de le fuir. Et puis, ça évitait d'avoir des discussions un petit peu provocatrices. Au poste de quart, chaque individu était seul devant son installation. Donc, c'était 4 heures vraiment face à soi. Je pense que c'était là le meilleur endroit pour s'isoler.
Il y avait des règles. À bord, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique et on ne parle pas de travail. Donc quand des gens enfreignaient ces règles, on leur plaçait un petit objet comme ça qui montrait qu'ils étaient en train de franchir une frontière qu'ils n'auraient pas dû. Le mur en question qu'on voit, c'est le mur de la vie privée. Alors c'était une tradition spécifique et c'est particulier au carré des officiers. Je pense, j'espère qu'elle se perpétue, mais on ne les trouvait pas sur tous les bateaux, pas forcément. La mission du commandant elle est finalement très simple, elle tient en peu de mots. C'est être prêt en permanence à exécuter l'ordre de lancement des missiles à tête nucléaire si cet ordre était donné par le président de la République.
Le commandant apporte à l'officier calcul les supports contenant les données des objectifs stratégiques. À un pont de distance, le commandant et son second introduisent les données complémentaires dans les calculateurs qui ne les prendront en compte que si les deux officiers les reproduisent identiquement.
4, 3, 2, 1, feu!
on y a réfléchi, on l'a accepté. On l'accepte dans la mesure où on sait qu'on est dans une démocratie, que celui qui va donner l'ordre, c'est un président élu. On ne le voit pas forcément imaginer tout seul en pyjama chez lui et dire « tiens, je vais déclencher une guerre ». Finalement, le commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engins a une très grande liberté. On vous donne un bateau, un équipage, des endroits où aller, assez vastes, et puis vous êtes seul. Vous vous rendrez compte en rentrant, mais encore on ne vous demande pas des choses extraordinaires, et jusque-là, vous imaginez, vous menez votre patrouille comme vous l'entendez. Le management des hommes était finalement très facile, parce qu'on a affaire à des volontaires, motivés, extrêmement compétents, très dévoués et faciles à commander.
Donc les liens avec la famille, une fois par semaine, en fait, on reçoit un familigramme. Donc à l'époque, c'était 20 mots. Et puis également, sans mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles, on vous les donne pas, quoi. Ce qui est assez logique. On va pas perturber les gens alors qu'ils ont encore 50 jours de patrouille à faire, quoi. Et bizarrement, ces 20 mots, ben, ils sont très attendus. C'est l'unique lien avec la famille, puisque nous, on n'aimait pas. Un sous-marin, il n'aimait pas. C'est le silence complet, puisqu'une émission, c'est une indiscrétion. On doit rester discret. Et donc, chaque mot doit être parfaitement explicite. Il ne doit pas y avoir de notion de code. C'est-à-dire, en fait, la marine, le BACF, c'était le bureau d'aide et aux familles, doit comprendre absolument tout ce qu'il y a dans le familigramme. Il ne doit rien y avoir de caché, quoi.
Par contre, au travers des familigrammes, on reçoit également d'excellentes nouvelles, puisque ça m'a permis de savoir en patrouille que mon premier fils était né.
Je pense que le plus difficile que j'ai eu à vivre, c'était non pas dans le sous-marin, mais au retour. C'est-à-dire que j'avais un petit qui avait quelques mois, et puis vous rentrez, et il ne vous reconnaît pas. Donc, bien sûr, ça ne dure pas longtemps, mais... Si j'ai un pincement, c'est ça.
Ben, quand j'ai rembarqué sur le Redoutable, ma fille, elle avait quoi? Elle n'avait pas 2 ans. Et puis, c'est vrai que quand je partais 70 jours, ben, là, je la voyais vraiment grandir. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. On est volontaire, donc on assume.
On est en 1989, le sous-marin Le Redoutable, construit à l'arsenal de Cherbourg, revient à Cherbourg définitivement. Il a fini son cycle de patrouille et il va être démantelé et se pose la question, une fois le cœur nucléaire retiré, de son avenir. Et des amiraux se posent la question, effectivement, sur Cherbourg. Il a entendu parler d'une réflexion autour d'une future cité de la mer, etc. Et donc l'idée apparaît que Le Redoutable pourrait venir... au cœur de cette cité. 1991, je suis parlementaire, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, puis son successeur, Pierre Jox, à la Défense, propose que ce sous-marin vienne, et là commencent des négociations sur le coût du démantèlement, le coût de la scénographie, le coût de la mise en sécurité pour que le public puisse pénétrer, visiter en toute sécurité un sous-marin, et si possible aussi, avec une scénographie intérieure, qui fasse que, en gros, l'équipage aurait quitté le sous-marin une demi-heure auparavant. Voilà. C'était ça l'objectif. Après, il y a eu des années de travail de la part de DCN, à l'époque, enfin c'est DCNS maintenant. Ensuite, il va y avoir pendant 2-3 ans un travail sur la création d'un commentaire audio avec DCN, la marine, pour essayer de trouver quelque chose qui va accrocher les gens. Et donc, le 4 juillet 2000, Le Redoutable arrive à la future cité de la mer qui, elle, ouvrira en 2002.